Ces questions d'environnement. Parce que là aussi, ça commence à bien faire.
Bonsoir, chers auditeurs fidèles de l'émission de politique, de sport de combat, de chasse, de pêche, de nature et de musique de Jones. Bonsoir, bienvenue à l'émission, ça commence à bien faire. Je vous l'annonce ici ce soir, si vous ne le saviez pas encore, chers auditeurs, vous êtes des veaux. Enfin, je devrais dire, nous sommes des veaux. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est notre grand généralissime président de son état à l'époque au sujet des Français. Nous sommes donc des veaux. Et cela va se vérifier pas plus tard que dans quelques semaines, puisque le commun des mortels va rentrer dans cette phase annuelle de léthargie cérébrale qui va les amener à la fois à voir la capacité de réflexion d'un bigorneau en indigestion ainsi que la capacité de réaction d'une loutre en hibernation. C'est dire à quel point vos neurones vont fonctionner. Donc en clair, cette période estivale va être l'occasion pour les hommes politiques et les autres de vous en mettre plein la gueule et peut-être même ailleurs. Et ce, sans que vous puissiez, ni même le vouliez, ne serait-ce qu'esquisser un mouvement de doigts de réprobation alors que vous êtes lourdement avachi sur votre serviette de plage à griller sous le soleil comme les centaines d'autres veaux autour de vous avec à la main Gala ou France Football. Nous sommes des veaux et c'est bien fait pour notre gueule. Durant les 2 mois d'été, des lois, des décisions vont être prises à l'abri des ministères, sachant pertinemment que les veaux, l'été, cela broute et cela n'emmerde personne. Et quand l'été sera terminé et que le train-train routinier du boulot aura repris, beaucoup de choses auront été faites et décidées. Mais pour les veaux que vous êtes et que nous sommes, ce sera trop tard. Quoi? Vous ne savez pas ce qui va se passer? Bah, ouvrez vos journaux, vous pouvez déjà en avoir un petit avant-goût. Mais on peut vous dire déjà qu'il sera question de hausse des coûts dans tous les domaines, y compris certains produits de première nécessité, et ce avant les réajustements habituels de la rentrée. Des restructurations et des licenciements, des promesses électorales qui vont passer à la trappe et des mises en place d'une certaine économie nationale de rigueur. Oups, pardon, pas de rigueur car le mot est interdit, car les veaux pourraient comprendre le terme. Donc nos politiques vont prendre des décisions qui ont la couleur d'eux, le goût d'eux et l'odeur d'eux, mais qui surtout ne dit pas son nom pour ne pas faire rager les veaux léthargiques. Car tout le monde le sait, un veau au réveil, c'est grognon. Mais nous, à l'émission, puisque nous sommes des gens sympas et des veaux moins léthargiques que la moyenne, nous avons décidé de vous donner des outils et des sujets qui, on l'espère, vous tiendra un minimum éveillé durant l'été et feront de vous des veaux sur le qui-vive, des veaux qui pourront emmerder tout leur entourage pendant 2 mois et pourront se targuer de dire au mois de septembre « Je vous l'avais bien dit, je vous l'avais bien dit !» Donc les veaux que nous sommes vous ont préparé ose vaut que vous êtes une émission pleine d'indignation et de résistance avec le dossier de ce soir sur l'insurrection qui tarde à venir où il sera beaucoup question du printemps érable. Et dans la seconde partie d'émission, vous retrouvez nos chroniques habituelles, nos revues de presse, notre rendez-vous mensuel et pendant ce temps-là à Fukushima et encore plein d'autres choses. Le tout sera assaisonné par une bonne dose de musique très bruyante qui va essayer de vous maintenir réveillé. Donc veaux de France et de Navarre, gardez encore vos paupières ouvertes le temps de l'émission, car cela commence maintenant. Yeah.
Et oui, pour ce premier numéro de l'été, nous avons décidé de rendre hommage ce soir à Michel Alliot-Marie en intitulant la première partie de notre programme « L'insurrection qui tarde à venir ». On va juste prier, hein, Samuel, pour que les forces d'intervention du RAID ne viennent pas interrompre l'antenne pour venir couper court à notre petite entreprise de terrorisme comique. Ne perdez pas votre temps, les gars, nous ne sommes pas des anarchistes forcenés, adeptes de l'épicerie bio. Pour ma part, j'ai juste mon propre potager dans lequel je plante des graines commandées à Cocopélie, mais c'est tout. Je le jure. L'insurrection qui vient, ou qui tarde à venir, on l'attend toujours en France. Certes, nous avons bon espoir que la déception des masses ayant voté socialiste aux dernières élections entraîne quelques soubresauts de mouvements sociaux pour augmenter sensiblement la durée de leur congé scolaire de la Toussaint. Mais on ne se fait pas d'illusions, le grand soir, ce n'est pas pour maintenant. L'ennemi masqué de François Hollande peut tranquillement mettre en œuvre son plan de bataille. Les bons petits Français, je ne dirais pas vos, moi, pour ma part, hein, j'ai un peu de respect pour nos auditeurs, donc les bons petits Français préfèrent nettement calquer leur existence sur les périodes de soldes, les festivals de l'été et autres grands messes sportives internationales, plutôt que de s'attaquer aux racines de leur misère sociale et politique. Cependant que nous nous résignons au traditionnel choix cornélien pour rompre l'oisiveté ennuyeuse des deux prochains mois, les sociétés québécoises, grecques, espagnoles, égyptiennes, yéménites et entre autres poursuivent leur coming out citoyen à coups de casseroles, de résistance démocratique, d'occupation de places inondées de soleil, voire, mais c'est un peu plus rare, de coups de gourdin dans la gueule des forces de l'ordre de leurs pays respectifs, lesquels, dommage pour elles, ne bénéficient malheureusement pas, ou malheureusement plus, du savoir-faire français que leur aurait aimablement proposé Madame Alliot-Marie si elle était encore ministre de la Défense du conservatisme gaulliste de mai 2. Mais que se passe-t-il donc au Québec ? La belle province de nos cousins prétendus dociles, voisine sous influence du noyau fondamentaliste libéral de Wall Street, serait-elle en passe de s'enflammer pour une simple histoire de frais d'inscription prohibitifs ? Pourquoi les compulsions des étudiants canadiens contaminent-elles désormais les classes sociales traditionnellement conformistes, qui ne voyaient jadis rien à redire à ce que Céline Dion devienne la mesure étalon du lyrisme populiste ? Il y a forcément un truc qui a changé dans ce monde en sursis, mais quoi ? Peut-être un petit livre de 23 pages rédigé par un vieux militant, qui sait, quelques mots revenus à la mode, indignation, occupation, résistance, lutte de classe, quelques mots devenus étendards du grondement populaire pour signifier aux élites autoproclamées que leur manège a été démasqué et qu'il est hors de question qu'un pourcentage infime de l'humanité continue à faire mumuse avec la planète pour quelques milliards virtuels de plus. Pour situer le contexte de la contestation québécoise, j'ai ressorti pour l'occasion deux extraits d'un article publié dans Le Monde diplomatique de juin 2012, article signé de Pascal Dufour, professeur au département sciences politiques de l'Université de Montréal, intitulé cet article « Ténacité des étudiants québécois ». Celle-ci expliquait dans cet article la démarche du gouvernement de Jean Charest qui venait de faire voter une loi restreignant le droit à manifester au 100e jour de la grève des étudiants québécois. Mettre un terme au conflit étudiant qui déchire le Québec depuis le 13 février 2012 en restreignant le droit de manifester, la liberté d'expression, celle d'association et en imposant de fortes amendes à ceux qui entraveront le droit d'un étudiant à suivre ses cours, telle était la mesure. La veille du vote, presque 40% des étudiants des établissements post-secondaires étaient toujours en grève et la police anti-émeute avait épuisé les abondants stocks de gaz lacrymogène de son principal fournisseur. L'enjeu du mouvement, eh bien, l'accès aux études supérieures et la décision du gouvernement libéral de M. Jean Charest d'augmenter les frais d'inscription de l'université, on l'a dit. Les enjeux de cette lutte dépassent la seule augmentation des frais, bien que le Québec n'ait pas été touché par la crise économique de 2008 dans les mêmes proportions que son voisin américain. Le modèle social québécois est progressivement remis en cause dans les discours comme dans les faits. De plus en plus de services publics sont devenus payants, notamment en matière de santé. Les tarifs d'électricité ont été revus à la hausse. La logique de la compétition et de la concurrence a été introduite dans la gestion des établissements publics. Ça nous rappelle pas mal de choses à nous aussi en France. Cela explique le ralliement d'autres acteurs à la cause étudiante, les centrales syndicales, mais aussi et surtout les coalitions temporaires créées pour l'occasion, comme les parents contre la hausse ou encore les profs contre la hausse, particulièrement actifs cela. À plusieurs reprises, des alliances ponctuelles ont en outre amené les étudiants à joindre leur voix à celle d'autres mouvements, comme par exemple le 22 avril dernier pour la Journée de la Terre, qui a rassemblé 300 000 personnes au parc de Mont-Royal lors des défilés du 1er mai. Mais voyons maintenant, Samuel, comment les médias ont traité et continuent de traiter encore l'activisme québécois en regardant un petit peu la chronologie de tous ces événements qu'on a suivis un peu de trop loin, on va dire, en France.
Oui, c'est vrai, Jean-Christophe. Maintenant, c'est devenu pas un sujet à mode, mais on aime bien en parler. Mais il fut un temps où justement la presse française était plutôt en fait silencieuse quant à ce qui se passait un petit peu là-bas. Il faut dire que, excuse-moi, j'ai coupé ton micro.
C'est étonnant, je disais, mais oui. Je me parlais à moi-même.
Mais mais c'est vrai que voilà. Après, c'est vrai que ça a commencé comme un simple petit mouvement d'étudiants, des mouvements d'étudiants très loin là-bas au-delà des mers. On s'en fiche un petit peu, même si quelquefois ça castagne un petit peu. Tant qu'il y a pas des morts, j'ai presque envie de dire, tant qu'il n'y a pas du sang, tant qu'il n'y a pas de la sueur, tant qu'il n'y a pas des larmes, ça peut-être ça intéresse pas forcément
c'est pas
la
vendable.
Presse. Bon, voilà. Donc il y a eu ce laps de temps un petit peu de léthargie, et par contre, c'est vrai qu'à l'occasion du 100e jour de manifestation, une sorte d'anniversaire, je ne sais pas, un peu triste, diront certains, la presse française a commencé un petit peu à se réveiller. Et c'est surtout en fait quand il y a le terme qui est devenu maintenant très à la mode et très utilisé de printemps érable, qui a été lâché par certains membres de la presse, en tout cas qui a été lâché là-bas et utilisé là-bas par certains groupes associatifs, que ça y est, entre guillemets, j'ai presque envie de dire que la mayonnaise a prise, parce qu'ils avaient la presse avait une petite accroche, et aidé en cela aussi, comme tu disais, en fait, peut-être aussi par ce qui s'est passé première quinzaine de mai au Québec, là-bas, avec la loi, en fait, loi 60 18, loi appelée aussi gentiment loi Matraque, qui a fait pas mal médiatiser voilà, en France. On écoutera d'ailleurs un petit truc de France Inter tout à l'heure à ce sujet.
Le bruit des Matraques.
Voilà. Mais moi, j'ai choisi un petit peu de revenir un peu sur cette chronologie, un petit peu des événements. Donc, à travers en fait un certain nombre d'extraits de presse. Alors, quelquefois, les extraits sont très courts, puisque j'ai gardé une ou deux lignes, voire parfois même juste l'accroche, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais à travers en fait cette chronologie que j'ai trouvée, donc le site, je peux le citer, qui est lapresse.ca, qui regroupe un petit peu tous les articles de presse des différents quotidiens que sont les journaux, La Presse, Le Soleil, Le Droit, La Tribune, Le Quotidien, Nouvelliste, La Voix de l'Est, qui sont un peu l'équivalent de nos Figaro, Libération, Le Monde et consorts en fait en France. On peut avoir un petit peu une sorte à la fois de chronologie, de voir un petit peu les méthodes un peu utilisées par les gouvernements, et puis voir un petit peu cette lente descente de non-maîtrise de manifestations du peuple et des gens à la rue, et voir un petit peu comment on en est un petit peu arrivé là. Donc en fait tout ça en fait commence, peut-être comme tu l'as dit tout à l'heure, mais je vais rappeler, en fait tout ça commence en fait le 16 septembre 2011, même s'il y a déjà des choses qui avaient été un petit peu énoncées là, mais le 16 septembre c'est là où ça a été vraiment rendu public et où ça a commencé à être évoqué au niveau du Parlement en fait québécois, où justement on a un article qui est intitulé « Université canadienne, les droits de scolarité sont en hausse », donc article du 16 septembre. La hausse des droits de scolarité pour les étudiants universitaires canadiens du premier cycle cette année est nettement plus élevée que celle du taux d'inflation. Les données de Statistique Canada indiquent que les étudiants canadiens ont déboursé 4,3% de plus pour les droits de scolarité que l'an dernier. Le taux d'inflation, lui, s'est élevé à 2,7% entre juillet 2010 et juillet 2011. Donc, il y avait déjà en fait ce constat en fait au mois de septembre, qui avait déjà en fait une élévation en fait des coûts. Et là, on leur a annoncé que pour l'année en fait suivante, il allait avoir cette augmentation de 1 300 $, si je ne me trompe pas. Voilà pour les frais d'inscription. L'article qui suit, qui est en date du 23 septembre 2011, est une sorte de réponse en fait par rapport à cette annonce, qui est en fait la mise en garde à propos de la hausse des droits de scolarité. La hausse des droits de scolarité inquiète le comité consultatif sur l'accessibilité financière des études. Dans un avis émis hier à la demande de la ministre de l'Éducation, Lynn Beauchamp, le comité qualifie d'importante augmentation des droits de scolarité de 325 $ par année pendant 5 ans. Pour protester contre la hausse des droits de scolarité, des étudiants ont surgi donc sur le plateau de tournage d'une émission de télé avec une banderole où il était écrit « L'éducation est un droit ». Donc déjà, première réaction publique d'étudiants par rapport à cette annonce. On continue avec le 6 octobre, donc on fait quelques petits bonds dans le temps, avec toujours un article intitulé « Hausse des droits de scolarité, les étudiants fourbissent leurs armes ». Si le gouvernement Charest ne recule pas devant la hausse des frais de scolarité, trouveront les étudiants sur son chemin. C'est ce que lui ont promis plusieurs associations étudiantes. Donc ça, c'est la date du 6 octobre. On passe au 6 novembre. Avec les frais de scolarité, les étudiants obtiennent l'appui de plusieurs organisations. Donc on voit en fait que le soutien commence un petit peu à s'organiser autour de 4 jours de la grande manifestation étudiante du 10 novembre, donc 10 novembre 2011. Plus de 130 groupes, dont les fédérations des femmes du Québec, les fédérations interprofessionnelles de la santé du Québec, la Fédération nationale des enseignants du Québec, etc., etc., en fait, se sont regroupés pour se joindre, en tout cas, pour épauler, en tout cas, la revendication des étudiants. Donc le 10 novembre, justement, date de manifestation, on a compté près de 8000 étudiants en grève, en tout cas présents dans les manifestations, et plus de 200 000 étudiants québécois qui étaient, on va dire, qui faisaient, on va dire, acte de non-présence dans les cours et dans les amphis. Toujours le 10 novembre, la colère des étudiants n'émeut pas Lynn Beauchaud. Donc là, on a le postulat des hommes politiques qui commencent un petit peu à croiser les bras, lever le menton bien haut et dire « Ouais, allez-y, continuez, on s'en fout ». Donc pour la cité, ils ont beau prendre la rue et manifester leur colère, les étudiants québécois devront se résoudre à débourser la juste part du coût de leur scolarité, a fait savoir jeudi la ministre de l'Éducation, Lynn Beauchaud.
Ça ressemble à du Michel Alliomarie dans le texte.
C'est pour ça que j'ai fait beaucoup penser à elle. On continue donc le lendemain avec le 11 novembre, puisque après la manifestation, on va dire qu'il y a la petite offensive, petite coup de talonnette en fait, petite offensive du gouvernement, puisqu'on apprend dans un article du 11 novembre, que le gouvernement achète le nom des associations étudiantes sur Internet. En effet, le gouvernement québécois a payé un moteur de recherche, Google pour ne pas le citer, donc Google, merci, pour s'assurer que son argumentaire arriverait en haut de celui des associations étudiantes aux yeux de l'internaute qui cherche à s'informer sur le sujet. Donc en gros, vous allez sur Google, vous tapez un peu droit de scolarisation et tout, vous tombez systématiquement sur les sites du ministère de l'Éducation qui expliquent en quoi c'est bien et tout, et que ça ne va pas faire mal. Voilà. Et donc, à partir de là, en fait, on peut voir et on peut lire dans la presse des réactions de l'intelligentsia qui nous donne leur avis un peu éclairé et pragmatique. Hein, voilà, les gens qu'on va souvent voir. Mais ça, on va faire un petit bond dans le temps puisqu'on était au 11 novembre et puis après, il y a eu les fêtes et bon, il y a eu pas mal de ping-pong entre les associations des étudiants et puis le ministère. Mais on arrive là au 17 février, donc un petit bond dans le temps. Et là, en fait, je vais vous lire donc un article du 17, comme je disais, et qui est intitulé « Non à la désobéissance civile », dont l'auteur est un avocat de la tour de la Bourse. Oui, parce qu'il y a eu une manifestation quelques jours auparavant et ces méchants manifestants, en fait, ils ont bloqué un petit peu la ville, dont en fait la tour de la Bourse. Donc, je ne sais pas si c'est l'équivalent de la City, mais bon, ça a un petit peu embêté certaines personnes, en tout cas. Et donc, je vais vous lire un petit peu ce, pas plaidoyer, mais en tout cas, ce qu'a dit ce monsieur qui est avocat à la tour de la Bourse du Québec. Dans les circonstances, une augmentation progressive de la contribution financière des étudiants n'apparaît pas comme la plus grande injustice sociale et accompagnée d'un ajustement des programmes d'aide financière. Ah oui, petit aparté. En réponse à la manifestation qui a eu lieu en fait au niveau du mois de novembre, la réponse en fait du gouvernement est de dire « Ah mais vous inquiétez pas, certes ça va coûter plus cher, mais on s'est arrangé avec les banques, ils vont vous faire des prêts bancaires qui vont être en fait du meilleur goût. » Voilà, donc c'est vrai qu'on se sentait pas, je pense que les étudiants qui n'étaient pas cas, se sont pas du tout sentis floués, puis ils ont pas eu l'impression d'une sorte d'opportunisme de certaines personnes à ce moment-là. Bon, bref, je continue. Le cri du cœur des étudiants qui prétendent être condamnés à abandonner leurs études face à une telle augmentation apparaît peu crédible et démontre plutôt un manque total d'esprit de sacrifice face à la préparation de leur avenir et un refus de renoncer à un certain mode de vie pendant quelques temps. Voyage, voiture, cellulaire, divertissement, etc., etc. Cela dit, sans égard à la valeur des revendications, celles-ci doivent être exercées de façon civilisée, à défaut de quoi elles n'ont aucune chance d'être entendues. À cet effet, la ligne de piquetage, donc en fait, une grève, voilà, dressée afin de fermer la tour de la Bourse hier matin, constituait un geste irresponsable et sans aucune portée. En empêchant des centaines de contribuables de se rendre à leur travail, les manifestants ont oublié que la liberté d'expression a ses limites, s'exprimant en brimant la liberté de travail et le droit d'accès à une propriété privée des personnes qui assument, eux, honnêtement, un lourd fardeau fiscal. Et afin, entre autres, de combler le déficit lié à des droits de scolarité beaucoup trop bas, ne constituant rien d'autre qu'une nuisance qu'il faut dénoncer. En gros, il est en train de dire, oui, vous nous bloquez, en fait, c'est nous, en fait, qui payons, en fait, vos droits. Bon, bref.
De tels gestes. Il n'a pas tort.
Oui, forcément, c'est forcément eux qui payent, parce que les pauvres étudiants, ils ne payent pas du tout. De tels gestes de désobéissance civile ne doivent pas être tolérés. Nous vivons dans une société de droits et les étudiants ont suffisamment d'imagination pour revendiquer des droits d'une manière civilisée.
Et là, on va avoir des problèmes avec nos auditeurs allemands parce que tu es en train de t'orienter vers quelque chose qui nous.
Ah non, j'étais en train de.
Qui rappelle les plus sombres heures de l'histoire, comme on dit dans certains médias.
C'est toi qui le penses. Moi, j'imitais plutôt certains politiques français, je te rassure. Voilà. C'est avec déception que plusieurs travailleurs de la tour de la Bourse ont constaté que les policiers ont attendu plusieurs heures avant d'intervenir pour établir l'accès au lieu de travail. Donc, on peut dire qu'ils étaient un peu tristes que les CRS aient attendu pour aller matraquer les petits jeunes. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'était sympathique, donc c'était un petit peu l'intelligence ça qui réagit un petit peu la manifestation, parce que ça se fait un petit peu entendre et ça se fait un petit peu voir. Heureusement, certaines personnes viennent s'insurger contre les méthodes de répression, en fait, justement, du gouvernement. Et donc, nous avons, en fait, en date du 5 mars, toujours des bons dans le temps, puisque pendant ce temps-là, bah, écoutez, les manifestations continuent, les grèves continuent. Et donc, un article en date du 5 mars, gazer le droit de manifester. Donc, l'auteur est un enseignant au Cégep Marie-Victorin, Montréal. Comme des milliers de jeunes qui manifestaient devant le Parlement, j'ai été attaqué au gaz pour la première fois de ma vie. Comme quoi, les Québécois sont pas forcément habitués, en fait, à ce genre de manifestation ou d'implication, on va dire, de manifestation dans les rues. Des étudiants et des enseignants en colère contre ce geste lâche et odieux, et pour tout dire criminel, de la police, qui ne visait qu'un seul but, nous empêcher d'exercer notre droit démocratique fondamental de manifester. Si le gouvernement Charest pense écraser le mouvement étudiant en ordonnant à sa police de gazer les étudiants qui manifestent, le vent qui se lève se chargera de lui renvoyer ses gaz à la figure. On continue, justement, tout à avec ces mouvements un petit peu, on va dire, toujours de rapprochement et de solidarité par rapport à ce mouvement, avec un article du 18 mars intitulé « Des centaines de familles pour appuyer des étudiants ». Donc en effet, des milliers de Montréalais ont effectué une sortie dominicale en famille, hors de l'ordinaire dimanche, des étudiants en grève, donc des étudiants entraînés avec leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, jusqu'au centre-ville pour une manifestation festive et sans heurts. Une réaction des parents qui essayaient un petit peu de protéger leurs bambins pendant qu'ils manifestent dans la rue. Après le pragmatisme dont on parlait peut-être tout à l'heure avec l'intelligence un petit peu qui réagit et qui essaye un petit peu de donner leur vision, on a un peu la propagande. Donc en date du 18 mars, on apprend que par exemple, donc je rappelle que tout ça, s'il y a toutes ces réformes, c'est parce qu'en fait les caisses sont vides comme un peu partout au Québec. Mais par contre, le 18 mars, on apprend qu'une publicité a fait bondir les étudiants parce qu'en effet, des publicités qui font la promotion du programme de prêt de bourse choquent les étudiants. En effet, la campagne a été lancée la semaine dernière par le ministre de l'Éducation au coût de 200 000 $. Donc en gros, c'est le grand paradoxe, c'est qu'en gros, le gouvernement qui dit ne plus avoir de sous dépense 200 000 $ pour dire qu'en fait, ils n'ont plus de sous et qu'il faut absolument changer un certain nombre de choses, dont les droits d'inscription. On continue le 23 mars, manifestation historique, qui est en fait une manifestation qui va permettre en fait de requérir, ou d'avoir de présent de 100 000 à 200 000 manifestants dans les rues de Montréal. Puis on en vient en fait à la date du 30 mars où on va dire que la propagande, que le point de vue de l'intelligence va commencer à laisser place en fait un petit peu l'intimidation. Puisque à la date du 30 mars, on peut lire un article intitulé « Grande mascarade, trois manifestantes accusées ». Lorsque les jeunes femmes ont pris place dans le box des accusés, elles ne portaient que des chaussettes puisque leurs souliers leur avaient été saisis en guise de pièces à conviction. Elles ont esquissé un grand sourire à la vue de cette salle remplie de leurs amis solidaires. Une quarantaine de jeunes arborant le carré rouge s'étaient d'ailleurs déplacés au palais de justice de Montréal pour leur manifester leur appui. Oui, le carré rouge est en fait le symbole en fait de ces manifestations, de ces grèves. Les trois jeunes femmes sont notamment soupçonnées d'avoir lancé des ballons de peinture rose sur 6 voitures de police. Super grave. Elles n'auront plus le droit de manifester à des manifestations à moins que celle-ci soit pacifique. Et en énonçant cette condition, la procureure de la couronne a déclenché un rire général dans l'assistance. Les accusés donc n'auront plus le droit non plus de manifester déguisés ou bien munis d'un sac à dos. Voilà, donc on essaye un petit peu de faire quelques petits procès histoire de commencer à faire peur aux jeunes. Mais vient le temps quand même, le temps un petit peu d'une sorte d'introspection pour certains journalistes, avec toujours en date du 30 mars, avec un article intitulé « L'indécence ». Trois fois, M. Charest a modifié les règles d'éthique de son propre gouvernement pour accommoder un autre ministre. Faut-il rappeler les 2 ans passés à esquiver les demandes d'enquête publique sur l'industrie de la corruption ou le cafouillage sur l'exploitation du gaz de schiste ? On en ressort avec la vague impression que le Québec est à vendre et que la seule chose qui reste à déterminer, c'est la quote-part, donc en gros le pourcentage, ou du moins la prime, que va toucher en fait le Premier ministre sur ses frais de livraison. Et soudain, comme s'il avait été frappé par la foudre, le Premier ministre s'est découvert des scrupules, des grands principes sur lesquels il ne faut pas transiger, l'avenir des universités. La hausse des droits de scolarité, l'équilibre budgétaire, on croit même l'avoir entendu prononcer des expressions comme « juste part de chacun » ou « intérêt public » sans se laver la bouche avec du savon. Cet élan de grandeur semblait suspect. Dans le rôle du sage, M. Charest apparaît en tout cas aussi crédible qu'un tigre promettant de modifier la loi de la jungle dans l'intérêt des gazelles. Pour éviter d'entretenir trop d'illusions sur les motivations réelles du Premier ministre, il suffit d'observer les annonces gouvernementales Depuis quelques semaines, la dernière concernait le prolongement au coût de 100 millions de dollars de la promenade Samuel de Champlain sur le bord du fleuve à Québec. Ce n'est pas que l'idée ne soit pas emballante, mais après des semaines de serments sur la rigueur budgétaire et au beau milieu d'une grève étudiante, l'annonce se révélait particulièrement indécente. À tous ceux qui espèrent qui désespèrent de nos mœurs politiques, je dédie cet extrait d'un livre intitulé A Funny Thing Happened on the Way to White House, qui s'agit en fait d'une anecdote que racontait le président américain Truman pour démontrer que l'électorat est moins dupe qu'il y paraît. Un jour, Truman prononce un discours devant une grande foule en plein air dans une réserve indienne. Plus la foule s'anime. À la fin, le politicien est tellement... à chaque fois qu'il promet quelque chose pour la réserve, les Indiens crient « Oupa, oupa !» et la foule s'aligne de plus en plus. À la fin, le politicien est très fier du résultat. Après son discours, le président quitte la scène en traversant un vaste enclos dont on vient d'évacuer les chevaux. Et là, son traducteur lui dit « Faites attention, monsieur le président, prenez garde de ne pas marcher dans le oupa. » Donc en gros, voilà, il y avait cette petite insinuation comme quoi ils ont l'impression d'être tout le temps bien écoutés et compris. Et en tout cas que le peuple qui les écoute sont vraiment des chèvres, on peut le dire, mais voilà,
des veaux, hein, c'est
des veaux que je disais tout à l'heure. On continue avec un petit bond toujours après le 30 mars au 5 avril avec Beauchamp, donc la ministre de l'Éducation, qui annonce des mesures pour soutenir financièrement les étudiants. J'en parlais tout à l'heure avec les prêts bancaires. De nouveau, ils en rajoutent un petit peu une couche. Donc forcément, le 5 avril, toujours la même journée, les étudiants rejettent en bloc l'offre de Beauchamp. Et puisque les propositions politiques ne fonctionnent pas, l'intelligentsia, via les éditorialistes de journaux, vont essayer à leur tour en fait, de désamorcer la situation, mais leur réflexion est... Comment dire ? Bah, écoutez plutôt. Donc c'est en date du 7 avril, et avec le titre de « Céder à la casse ». Devant le saccage commis au palais des congrès et dans les rues avoisinantes, le porte-parole de la classe, donc en fait un mouvement étudiant, avait une occasion en or de dénoncer ces gestes. Ils s'en sont soigneusement abstenus, justifiant au contraire la violence par attitude du gouvernement à l'endroit des revendications étudiantes. Pourtant, il est renversant d'avoir à le répéter, rien au Québec ne justifie qu'un groupe exprime son mécontentement par la violence. Il a été amplement démontré dans le passé que les manifestations pacifiques peuvent amener le gouvernement à modifier ses politiques. En outre, les prochaines élections donneront à ceux qui s'opposent à la hausse des droits de scolarité et au plan Nord, qui est en fait un autre directive en fait qui a cours en ce moment. Et donc ces élections permettront donc de voter pour un parti qui partage leur point de vue. Alors c'est vrai que voilà, après je dirais on pourrait faire une analogie avec la France, ils ont le choix entre le terme va être un peu fort, mais bon, on leur dit oui, vous inquiétez pas, vous aurez le droit de vous exprimer au moment du vote. Mais après, au moment du vote, ils auront le choix entre la peste et le choléra, entre guillemets. Donc voilà, donc en gros, ils continuent en fait à prendre les gens pour des chèvres. Je continue. Excusez-moi. Avec un article du 11 avril, puisque les répressions continuent, pour les manifs, le recours croissant au code de la sécurité routière est dénoncé. Bah oui, en effet, puisque comme ils n'ont pas de moyens de rétorsion, on va dire, légal, ils utilisent en fait le code de la route, de la sécurité routière, pour pouvoir alpaguer en fait les étudiants et dire qu'ils sont en contravention avec ce code et pouvoir les arrêter et leur donner des amendes. Histoire toujours en fait de freiner en fait leur velléité à pouvoir se manifester, ou en tout cas, avoir des revendications autres que celles du gouvernement. On continue avec le 14 avril avec manif pour un printemps québécois. Donc la date du 14 avril est un peu marquante puisque c'est à partir de peu près cette date-là qu'on va voir les termes de printemps québécois et très rapidement le terme de printemps érable. Et donc nous là, nous retrouvons après tout ceci et de nouveau en fait l'élite éditorialiste québécoise tout à leur circonscription face aux événements. Donc nous avons en fait un article qui date du 15 avril et qui est appelé Twilight Zone. Je ne comprends pas. La grève continue dans les cégeps et les universités. 170 000 étudiants risquent de perdre leur trimestre. Le climat n'a jamais été aussi tendu sur les campus. Et que fait le Premier ministre du Québec ? Il ergote sur la signification des mots condamnés et distanciés. J'ai l'impression de vivre dans un univers parallèle, une sorte de Twilight Zone, une zone totalement déjantée. Donc là, même les totalistes commencent un petit peu à perdre leur latin en disant « Mais que fait le Premier ministre ?» Voilà, il n'est pas sur le bon front de combat. Et juste avant cette petite pause et te laisser reprendre la parole et moi reprendre mon souffle, Jean-Christophe, je vais finir avec juste cet article du 18 avril qui est en fait voilà une autre on va dire main tendue, certains diraient, de la part du gouvernement, puisque cet article est intitulé « Le gouvernement lance un ultimatum à la classe », donc classe toujours cette association étudiante. Et donc le gouvernement lance un ultimatum mercredi à l'association étudiante la plus radicale de la coalition en leur imposant un petit peu en fait d'imposer le retour dans les classes et les amphithéâtres et d'arrêter en fait voilà. Donc c'est vrai que la négociation en imposant un ultimatum, c'est vrai que ça a toujours très bien fonctionné. Mais Jean-Christophe, je vais te laisser de nouveau la parole, tu vas continuer sur on va s'écouter un petit extrait,
une voix terrible,
une voix inquiétante. Certains diraient une voix hypnotisante, mais on va s'écouter un petit peu, peut-être un peu ce qui se passe aussi, un peu l'image de ce qui se passe un petit peu là-bas en ce moment.
Bonjour amis du monde libre, nous sommes Anonymous. Depuis quelques semaines, la médiatisation du collectif Anonymous, après la fermeture de Mega Upload, de nombreuses personnes veulent tirer profit, accroître leur notoriété en utilisant le nom d'Anonymous comme un effet de mode. Nous voyons s'ouvrir, au nom d'Anonymous, des centaines de pages sur le réseau social Facebook. Certaines de ces pages diffusent en masse sans se soucier du contenu qu'elles colportent auprès du public de Facebook. Malheureusement, certaines de ces informations sont fausses, et en les propageant, vous vous exposez tout simplement à certains risques, voire à faire échouer certaines de nos opérations. Les administrateurs de ces pages se revendiquent Anonymous. C'est faux. Ils ne le sont pas. Ils divulguent naïvement leurs noms, coordonnées et numéros de téléphone personnel. Ils laissent des traces qui peuvent être utilisées. Rappelez-vous que l'anonymat est un principe fondamental pour Anonymous. C'est un droit que nous devons conserver quels que soient les moyens utilisés. Chacun est libre de s'exprimer sur le web, mais pas en notre nom, et surtout pas pour diffuser de mauvaises informations, comme des attaques de médias, entre autres. Nous rappelons à tous, encore une fois, qu'Anonymous n'attaque pas les médias. On nous parle de liberté d'expression sur Facebook et que chacun peut se revendiquer Anonymous. La liberté d'expression toujours défendue par Anonymous ne donne pas le droit d'écrire n'importe quoi en notre nom. Retenez bien que tout peut être dit et partagé, mais pas au nom d'Anonymous. Dans un premier temps, nous avons pris contact avec certains comptes et pages de fans se prétendant à Anonymous sur Facebook pour les avertir que certaines des opérations qu'ils partageaient n'auraient jamais lieu. Mais aussi pour les inviter à nous contacter afin qu'ils puissent comprendre pleinement la philosophie Anonymous et nos modes de fonctionnement. Si vous parlez Anonymous, si vous respirez Anonymous, alors, rejoignez-nous sur IRC. Mais avant de vous réclamer d'Anonymous, merci de vérifier vos sources et les informations que vous voulez diffuser. Recherchez-nous et nous dialoguerons ensemble. Par ce communiqué au nom d'Anonymous, nous tenons à discréditer tous ces groupes et toutes ces pages créées sur Facebook. Les informations que vous pouvez y trouver ne sont absolument pas officielles. N'oubliez pas que nous vous regardons, nous vous observons et que nous ne sommes pas les seuls.
Ça fait froid dans le dos. J'en tremble encore. Alors évidemment, vous aurez peut-être reconnu, si par exemple vous avez suivi mes conseils donnés dans la dernière émission, la voix du présentateur, la voix trafiquée évidemment du présentateur Anonymous, qui commence maintenant à intervenir de plus en plus dans un plus grand nombre de vidéos, et qui était notamment le présentateur de cette fameuse vidéo d'introduction du très long document vidéo mis en ligne par Anonymous du Québec il y a déjà quelques semaines maintenant. C'est un film dont on vous a pas un petit peu parlé, j'espère que vous l'avez vu intégralement, et sinon il faudra aller le voir, un film de 2h09 réalisé à l'occasion de la fête gigantesque donnée par le milliardaire Paul Desmarais en l'honneur de son épouse Jackie dans sa propriété de Sargarthe. Cet acte militant, puisque ce film n'était pas évidemment destiné à être divulgué au grand public, a surtout gêné aux encablures le gouvernement québécois, non pas parce qu'il montre l'étalement obscène d'une richesse douteuse, mais surtout parce qu'on y assiste à la connivence avérée de soi-disant ennemis politiques, dont Jean Charest lui-même, réunis et réconciliés dans une opulence dégoulinante de bling-bling. Et comme le répètent ces dangereux terroristes du web, les Anonymous, bien cachés derrière leur masque de Guy Fawkes, ceci n'est qu'un début. Car effectivement, au Québec comme ailleurs, On n'en est pas encore à lancer des rames de métro chargées d'explosifs sur le Parlement britannique ou sur l'Assemblée nationale, quelle idée, car le modèle capitaliste demeure bien armé pour résister à ces quelques coups d'épée dans l'eau, comme on dit là-bas, fort de toutes ces décennies de manipulation lente mais efficace des esprits. Un examen un tout petit peu plus poussé des mouvements de contestation québécois, plus poussé encore que tout ce que a pu nous décrire Samuel il y a quelques minutes, ça va être dur de ma part d'aller un peu plus loin et un peu plus poussé, mais je vais essayer. Donc un examen un peu plus poussé permet, plutôt incite à relativiser leur impact réel sur les mentalités de la population majoritairement encore très conservatrice. Retour donc sur l'article que je citais tout à l'heure de Pascal Dufour, où vers la fin de cet article on peut lire ceci. Quelle qu'en soit l'issue, la lutte étudiante du printemps 2012 est un vecteur de politisation pour toute une génération, mais aussi de polarisation au sein d'une société québécoise très divisée. Depuis le début du mouvement, des enquêtes d'opinion montrent qu'environ la moitié des personnes interrogées soutiendraient la mesure gouvernementale, alors que l'autre moitié la rejetterait. Au sein des partis d'opposition, le Parti québécois, social-démocrate et souverainiste, dénonce la hausse et a promis de l'annuler s'il remporte les prochaines élections. Le Parti de gauche Québec solidaire milite, lui, pour la gratuité scolaire. Quant à la coalition Avenir Québec, CAQ, un nouveau parti de droite, il soutient la décision gouvernementale. Au sein même de la population étudiante, il faut rappeler qu'il existe un conflit qui a également révélé des fractures. Un groupe qui s'oppose à la grève et soutient la hausse proposée par le gouvernement, un groupe s'est créé, il s'appelle le Mouvement des étudiants socialement responsables, tout un programme. Peu organisé sur un plan collectif, ses membres ont eu recours aux tribunaux, faisant jouer leur droit individuel à suivre les cours et l'obligation par les universités et pour les cégeps, alors on l'a pas dit mais les cégeps ce sont des fédérations de collèges publics, donc les droits pour les universités et les cégeps de les dispenser, ces cours. Le quotidien La Presse, cité tout à l'heure, recensait fin avril plus de 25 demandes d'injonction déposées pour obtenir la reprise des cours et, dans certains cas, l'interdiction des manifestations sur les campus, avec des arguments économiques, par exemple le coût lié à la prolongation du trimestre et à la perte possible d'un emploi d'été, ou encore des arguments universitaires comme admission à l'automne suivant dans un programme contingenté. Lorsqu'elles ont été ordonnées, ces injonctions n'ont généralement évidemment pas été respectées par les étudiants en grève, engendrant de fortes tensions et une répression policière contre les grévistes au sein de l'établissement. Et écoutez bien ceci, avec le vote de la loi 78, le gouvernement semble avoir tranché. La légitimité collective d'un mouvement de grève ne sera plus autorisée à peser face aux droits individuels des consommateurs d'études. Voilà le terme employé pour décrire les étudiants. Alors à ceux qui, comme toi, cher auditeur, nous soupçonnent souvent de franche partialité à l'égard d'une pensée anarchiste, immature, j'aimerais lire un morceau du texte de Raphaël Kempf, publié dans le même Monde diplomatique de juin dernier, en encart de sa radiographie d'une indignation planétaire, histoire de te confirmer notre croyance dans les petites causes qui font les grands effets. L'encart s'intitule « Ce qu'a changé, occupé Wall Street ». Au début du mouvement Occupé Wall Street, les manifestants ont été critiqués parce qu'ils n'avaient pas de revendications. À leurs yeux, ce reproche est infondé. Ils se battent de manière générale contre le pouvoir de la finance, les inégalités croissantes que connaît la société américaine, les effets du capitalisme sur les plus pauvres. Ils veulent donc éviter de réduire leur mouvement à telle ou telle question particulière. Élaborer des revendications qui peuvent être satisfaites confère nécessairement une légitimité à ceux qui ont le pouvoir de satisfaire ces revendications, écrit la philosophe Judith Butler dans Tidal, la revue publiée par le mouvement Occupé. Cette position théoriquement solide doit être nuancée. Occupy Wall Street s'est en effet saisi de nombreuses questions particulières. Ainsi, il est venu en aide aux familles pauvres expulsées de leur maison après la crise des crédits hypothécaires, les fameuses subprimes. Dorénavant, c'est contre le poids écrasant de la dette des étudiants qu'il cherche à mobiliser, étendant ses activités à nombre de problèmes sur lesquels des revendications vont émerger. Occupé, nous explique Rebecca, une organisatrice à plein temps rencontrée dans les bureaux du 50 Broadway, le siège de l'organisation de Occupy Wall Street, attire l'attention médiatique sur d'autres organisations et manifestations préexistantes. Il connecte tous les mouvements, surtout sur la question des inégalités économiques. Et en cela, il y a déjà eu des effets politiques dans la société américaine. Il a changé la conversation aux États-Unis, où les inégalités tiennent désormais une place de choix dans le débat public. Le président Barack Obama, lui-même qui disait récemment payer encore le crédit de ses études, s'en est saisi dans un discours prononcé en décembre 2011 dans le Kansas. Il a critiqué l'idéologie du libre marché, insisté sur la nécessité de faire payer plus d'impôts aux riches et de réglementer la finance. Reprenant une image popularisée par Occupé, il a même rappelé que les revenus de 1% des plus riches avaient doublé au cours des dernières décennies. Et pour le journaliste John Nichols, il s'agit là d'un changement radical. 3 mois avant ce discours, le président ne pouvait parler de rien d'autre que de la dette publique. Il était le premier défenseur des mesures d'austérité. Nous devenons comme l'Europe, où les gens savent où ils se situent politiquement.
Je vais continuer tout de suite, moi, de mon côté, avec toujours cette chronologie. Et donc la deuxième partie, en fait, concernant un petit peu l'amoncellement un petit peu de tous ces événements. Et je vais continuer tout de suite. Nous en étions un petit peu, on va dire, dernier coup de bravache du Premier ministre qui lançait, donc, à date du 18 avril, cet ultimatum à tous les étudiants en leur disant « Va falloir maintenant commencer à penser à rentrer, en fait, en cours. »
Ça commence à bien faire,
oui,
comme dirait l'autre.
Ça commence à bien faire, comme dirait l'autre. Et tous les éditorialistes de tous les journaux qui, un petit peu, commencent, eux, à leur manière aussi, quand même, de raisonner si ces étudiants qui sont un peu trop gâtés, qui ne comprennent pas le contexte, on va dire, mondial économique un peu difficile. Et donc, ça serait bien qu'ils entendent raison et qu'ils écoutent un petit peu ce que dit le gentil Premier ministre qui veut du bien au peuple. Voilà. Et pourtant, en fait, mais heureusement, quelque part aussi, dans cet îlot un peu d'indignation, en fait, on trouve des gens qui arrivent un petit peu à percer un petit peu ces rangs serrés, en fait, de ces éditorialistes qui un peu sont, voilà, je suis presque un peu dire comme une sorte de manifestation un petit peu leur manière, les uns à côté des autres, le coup de serré pour que personne ne franchisse en fait la ligne. Il y a quand même certaines personnes qui arrivent à écrire en fait des textes et qui franchissent et qui permettent d'atteindre un petit peu et de donner un petit peu un son cloche un petit peu différent en fait du leur. Et ça, là, c'est le cas en fait à la date du 21 avril 2012. Avec un article intitulé Nous sommes trompés. Et en fait, qui a été écrit, en fait, l'auteur, c'est un professeur de littérature du collège. Donc vous allez me dire, oui, alors tout de suite les partiels, parce que c'est un prof. Et puis, de toute façon, les profs, c'est tous des gauchos anarchistes. Bref, tout ça, quand même, pour dire que bon, il y a quand même des gens qui ont, en fait, une opinion légèrement parmi les adultes, parce qu'on a l'impression presque que c'est un conflit générationnel entre les jeunes qui veulent faire des études et rien payer et les adultes qui, eux, ont déjà fait leurs études et qui sont des gens raisonnables. Et là, on voit, en fait, qu'il y a quand même des adultes qui sont des gens, quand même, normalement réfléchis. Ah bon. Parce que des profs, normalement, littérature, quand même, c'est des gens comme minimum réfléchis et qui donnent un petit peu leur soutien et qui expliquent un petit peu certaines choses. Et donc là, je vais vous lire donc ce texte. Donc, quand le trimestre a commencé au début de l'hiver, mon enthousiasme était vif. J'allais aider mes étudiants à réfléchir à travers des œuvres marquantes aux notions de communication, d'argumentation et de propagande. Puis on a entendu parler de la grève. J'étais en fait d'accord avec tout cela, mais j'invitais malgré tout mes étudiants à porter un regard critique sur les discours de ces représentants, sur l'efficacité de leur communication, sur la validité de leurs arguments, sur leur emploi de certains procédés plus ou moins manipulateurs. C'était un bon moyen de témoigner une certaine impartialité en fait de ma part en fait aux étudiants. Tel n'était d'ailleurs pas mon rôle comme enseignant d'ailleurs d'enseigner. Les étudiants de mon collège ont voté démocratiquement la grève. La matière des dernières semaines, je regrette, est peut-être riche en fait en exemple de dérive de la communication, de l'argumentation et de la propagande. Mais je ne pourrais plus aborder justement avec ces dérives, plus aborder avec optimisme des œuvres comme 1984. On y trouve une phrase que j'avais l'intention de discuter. Cette phrase, si vous désirez une image de l'avenir, imaginez une botte piétinant un visage humain éternellement. Jean Charest n'est peut-être pas Big Brother, il est trop humain pour cela. Notre gouvernement n'est pas totalitaire, il est trop intéressé pour cela. Mais il y a eu piétinement de centaines de milliers de visages qui vont bientôt se relever et à qui en fait on devra faire oublier tout cela. Je continue toujours avec des petits îlots en fait d'éclaircies, on va dire, parmi tous ces éditorialistes qui un peu parlent presque de la même voix, avec un article cette fois du 23 avril intitulé « Des étudiants ignorés, discrédités, ridiculisés ». À vouloir des révolutions pacifiques, on rend inévitables les révolutions violentes. Cette citation percutante est celle de John Fitzgerald Kennedy. Elle résume très bien pourquoi le conflit qui oppose le mouvement étudiant au gouvernement québécois glisse dans la violence. Et justement, puisque ça glisse dans la violence et l'incompréhension pour certains, il est temps en fait que de nouveau les nouveaux chiens de garde, mais les chiens de garde, toujours au poste, toujours fidèles au poste, en fait réagissent. Et donc là, on a un petit peu une réaction justement d'un de ces chiens de garde qui est en date du 27 avril avec un article intitulé « Crise de société ». Alors écoutez bien, parce que quand on écoute, ça fait un peu peur. Dans une démocratie parlementaire qui fonde sa légitimité sur la primauté du droit, l'État a la responsabilité d'assurer le respect des lois et pour ce faire, peut utiliser la force de l'ordre et les tribunaux pour réprimer des citoyens qui ont recours à des moyens violents pour atteindre leur but. Ce principe est inflexible et sauf en cas de légitime défense pour protéger la vie, l'intégrité physique ou les biens, la violence doit être condamnée sans ménagement. Alors, si vous avez bien écouté, en gros, il condamne la violence des étudiants, mais à côté, il dit que c'est très bien que le gouvernement utilise la violence pour pouvoir imposer, en fait, son sorte de diktat, ou en tout cas, ses décisions. Je pourrais toujours, dans le côté un petit peu chien de garde, bon, un peu plus mesuré, mais toujours en date du 27 avril, un autre article intitulé « Ni printemps, ni érable ». Donc je vais vous passer en fait un certain nombre d'éléments. Donc alors qu'on s'enfonce dans une crise sociale, j'entendais hier que quelqu'un se lève et se dise c'est assez. J'attendais que le ministre Lynn Beauchamp, donc ministre de l'Éducation, mette de côté ses règlements de compte personnel pour négocier de bonne foi avec les étudiants. Certains appellent ça le printemps érable. J'avoue éprouver un certain malaise quand j'entends cette expression qui se veut un clin d'œil au printemps arabe. Il me semble que l'on compare deux réalités qui ont bien peu en commun. Non, le square Émilie Gamelin n'est pas tout à fait la place Tahrir. Non, Jean Charest, même si on peut lui reprocher bien des choses, n'est pas tout à fait Hosni Moubarak. Et même si la police montréalaise n'a pas toujours agi de façon exemplaire, la comparaison avec la police égyptienne me semble éhontée. Place Tahrir, où j'étais en novembre dernier, des manifestants sont morts asphyxiés par des gaz lacrymogènes. De nombreux journalistes ont reçu des balles dans les yeux dans ce qui semblait être une tactique délibérée des forces de l'ordre pour les intimider. Des centaines d'Égyptiens sont morts sous la répression ou la torture, payant de leur vie la liberté pour laquelle ils se battaient. Des milliers ont été blessés. Ni printemps ni érable, ce que nous vivons ressemble bien davantage à un gâchis lamentable. Donc certes, je rejoins un petit peu son analyse par rapport à peut-être un certain nombre de différences, mais là justement les différences sont peut-être des différences de on va dire déjà par rapport au régime qui y est, et puis par rapport aussi à, on va dire, la nature peut-être quelque part qui n'est pas si différente en fait finalement en fait des revendications, puisque ces éditorialistes ont toujours tendance à cantonner en fait leurs revendications à juste des enfants gâtés qui ne veulent pas payer en fait des droits, alors que depuis quelques mois en fait surgissent, ou du moins des revendications dépassent, si on les écoute, dépassent le simple fait en fait d'une volonté de ne pas payer en fait les droits d'inscription, mais dépasse plus en fait une sorte de malaise, on va dire générationnel, et une envie en fait de changer, de faire bouger les choses. Donc, ce qui peut faire penser justement à tous les échos en fait de différents printemps qu'il y a eu dans les différents pays, même si encore une fois il n'y a pas eu la même violence, quoique encore une fois faut relativiser aussi ce qui se passe, même s'il faut relativiser ce qui se passe au Québec, la violence est quand même présente et elle ne cesse en fait de monter un cran depuis plusieurs mois. Cette fois, je vais lire, en fait, toujours dans la continuité, puisque bon, on est toujours là au 1er mai 2012. Ça fait quand même des mois et des mois que le mouvement, et donc, le gouvernement puisse se faire entendre par rapport à ses arguments, ses argumentaires. Donc là, on apprend que, le 1er mai, on apprend qu'il y a eu de nouveau, en fait, une publicité, qui a été payée 165 000 dollars. Bah oui, ils ont plus d'argent, mais ils ont toujours de l'argent pour faire des publicités. Et à la date du 4 mai, 4 jours plus tard, on est toujours avec le Premier ministre qui dit « il est temps que la raison prenne le dessus ». Et donc il exhorte les étudiants à regagner les campus de nouveau. Et puis on essaye en fait justement de calmer les choses en faisant croire, puis en fait à ce moment justement on essaye de faire calmer les choses, en faire croire en fait à la victoire en fait des étudiants, tout en gardant encore une fois la tête haute et bravache. Donc en fait entre le laps de temps en fait du 1er mai et du 5 mai, il y a eu un certain nombre de négociations qui ont été ouvertes, et donc le gouvernement a fait diffuser un certain nombre de communiqués comme quoi des négociations étaient en train de se terminer. Et donc quand on lit l'article donc en date du 5 mai, que je vais vous dire tout de suite, donc sortie de crise, 12 semaines après que les premiers étudiants ont décidé de boycotter leurs cours, le gouvernement a réuni hier des acteurs capables de dénouer en fait la crise. Il était temps. Cette entrée en scène de gestionnaires et de syndicats du monde de l'éducation devrait en effet ajouter une bonne dose de réalisme aux discussions et donc ouvrir la porte à un compromis. Donc là, ils essayent de dire que là, cette fois, puisqu'il y avait des syndicats qui rentraient un petit peu en jeu à la date du 4 mai, qu'enfin, on va pouvoir discuter sérieusement, puisqu'il ne s'agit plus de ces crétins d'immatures, en fait, étudiants, mais qu'il s'agit, en fait, cette fois, de gens qui sont des habitués. Et on sait à quel point, quand les habitués des négociations se mettent sur la table, à quel point, en fait, les négociations, et dans quel sens, en fait, elles aboutissent. On continue donc après le 7 mai, le gouvernement continue en fait à proclamer, ou du moins les totalistes aussi, à proclamer en fait une victoire étudiante. Alors que quelques jours, toujours plutôt quelques heures plus tard, on apprend finalement que la voix se fait entendre de la part des étudiants et des associations qui disent qu'absolument non, qu'en fait il n'y a jamais eu une négociation, que ça n'a jamais été conclu et qu'en fait ils n'ont jamais été d'accord avec ce que essayait d'imposer toujours le gouvernement. Donc retour en fait à la case départ. Donc, coup de bravage encore de nouveau avec la Première Ministre, puisque toujours en date du 7 mai, en fin de journée, Lynn Beauchaud, qui est la ministre, indique qu'il n'est absolument pas du tout question de modifier l'entente. Donc, en gros, ils se sont mis d'accord avec eux-mêmes, le gouvernement, sur des négociations avec les étudiants, avec qui, en fait, ils ne s'étaient pas d'accord pour avancer sur ces points, mais en fait, voilà. Et donc, on en vient donc... on continue, donc ça, c'était la date du 7 mai, on continue avec le 11 mai, avec de nouveau des soutiens de plus en plus du peuple, puisque, encore une fois, jusqu'ici, il y avait une sorte de schisme, l'impression que c'était les jeunes contre les adultes, les jeunes contre les travailleurs. Et là, on voit en plus qu'il y a de plus en plus en fait, de gens du monde du travail qui en fait, se fédèrent autour de ces étudiants et de leurs revendications. Et donc, à date du 11 mai, on apprend que le mouvement du carré blanc gagne des appuis, puisque, comme je disais tout à l'heure, le carré rouge est le signe, on va dire, le symbole des manifestations étudiantes. Et en fait, il y a une mise en place de la part en fait, de parents en fait, d'élèves d'un mouvement qui est en fait, le mouvement de carré blanc, qui est en fait, là, un mouvement de soutien auprès de leurs enfants et de la jeunesse. Et donc, on apprend aussi qu'il y a en fait un certain nombre de médecins, une centaine de médecins réputés, en tout cas, et d'avocats de la cour, et de gens en fait de gens de loi en fait, qui commencent un petit peu à rejoindre en fait le mouvement. La date du 11 mai. On apprend aussi qu'à la date du 12 mai, et donc là on voit un petit peu, rejoint un peu les revendications, on apprend que les indignés d'Occupons Montréal sont de retour. Les indignés du mouvement Occupons Montréal reprennent du service, mais cette fois leur action s'inscrit dans un vaste mouvement mondial qui embrasse plusieurs causes sociales. À noter que le groupe s'est fait baptiser J'appelle, et qui est donc ce nom n'a pas été choisi, ce diminutif n'a pas été choisi par hasard, puisqu'il signifie journée d'action populaire pour un printemps érable et global. Donc on voit que les négociations piétinent et à un certain moment, le gouvernement va utiliser une des recettes utilisées, ou du moins décrites dans les manuels du parfait petit politicien. Quand ça commence un petit peu bloqué, que les manifestations se font plus dans la rue, on fait sauter un fusible. Et ça a été le cas en fait, de la ministre Lynn Beauchaud qui démissionne ou se fait démissionner en fonction de, voilà, en fonction de, du point de vue de chacun. Mais après cela, après avoir donné cette sensation de dire, écoutez, on va essayer de vous écouter puisque la ministre n'était pas très, n'avait pas l'oreille suffisamment tendue, de nouveau une sorte de coup de bravache un peu incompréhensible de Jean Charest, le Premier ministre, qui dit que de toute façon, maintenant, en gros, c'est la récré finie, il faut encore rentrer en classe. Donc de nouveau, en fait, une sorte d'exhortation en fait à rentrer, de finir en fait la grève. Mais on apprend en fait quelques jours plus tard, à date du 18 mai, donc là, ça va être un petit peu, on rejoint un petit peu ce que tu as évoqué tout à l'heure, en fait, que cette fois, il y a utilisation en fait, d'une aura un peu répressive, puisqu'il y a mise en place du projet de loi 78, qui est considéré comme une déclaration de guerre de la part de la plupart de l'intégralité des associations d'étudiantes, et donc qui va être appelée en fait, la loi en fait, Matraque. Et à partir de ce moment-là, on va dire que, alors que tous les éditorialistes, depuis le début des mouvements, étaient vraiment derrière en fait, le gouvernement, ou du moins leur point de vue rejoignait le gouvernement, là, il devient de plus en plus difficile avec ces gens, une sorte d'intelligentsia de la presse, de rester en fait de marbre et de continuer à soutenir. Donc on a en fait un article à date du 18 mai au soir, après l'annonce de la loi et du projet de loi 78, donc intitulé une loi qui va trop loin. Donc de toute évidence, le gouvernement de Jean Charest est allé trop loin avec la loi 78 pour mettre fin au conflit étudiant au Québec. En encadrant de manière trop serrée le droit de manifester, le Québec se retrouve bâillonné à un point tel que les références à des régimes totalitaires d'ordinaire hors contexte sont justifiées. Le gouvernement sait bien qu'il outrepasse des droits constitutionnels. Il sait bien aussi qu'en limitant son application jusqu'au 1er juillet 2013, toute contestation de principe devant les tribunaux seront hors délai. Jean-Christophe.
Musique.
Musique. Eh bien écoute, Jean-Christophe, l'ordinateur ne veut pas démarrer. Donc, on va pas avoir de musique tout de suite.
Il va falloir qu'on meuble alors.
Il va falloir qu'on meuble quelques instants.
Théoriquement, on est obligé de...
Si, ça va être bon, on va pouvoir
ça va être
avoir...
Bon, hein.
Ouais, on va pouvoir avoir ce petit...
Allez, un peu de musique avant la revue de presse.
Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellites gone way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. With Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday, with Harry, Mark, and John. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of. Satellite.
On va commencer notre revue de presse sur la voix de Lou Reed et David Bowie en chœur. En complément du survol que nous avons essayé de faire pendant quelques minutes sur l'insurrection qui tarde à venir en Amérique du Nord, je ne saurais trop vous conseiller le supplément du Monde diplomatique de juillet. Non, ce n'est pas notre unique source d'information, mais certainement l'une des plus fiables. Donc le supplément du Monde diplomatique du mois de juillet consacré à Québec. Vous y lirez notamment un article intitulé « Division culturelle autour du printemps québécois » signé par 11 de ces fameux professeurs contre la hausse cités plus haut. D'une certaine manière, ce court article prophétise la jonction prochaine entre les mouvements états-uniens d'Occupy Wall Street et les mouvements québécois eux-mêmes en passe de contaminer le reste du Canada et sa majoritaire communauté anglophone. Samuel, à toi de jouer.
Je vais continuer moi tout de suite avec toujours avec cette revue de presse. Et là, je vais essayer de tailler en vif, puisqu'on est en retard et c'est de ma faute. On va continuer. Donc, je vais vous parler en fait. Je sais, c'est pas non plus mon unique source d'information, quoique. avec le site Agoravox.
Le site roumain, c'est
le
ça.
Site Agoravox, l'antenne française. Donc, avec un article intitulé « J'aime pas les riches ». Donc un article en date du 26 juin 2012. On se souvient de cette phrase prononcée par le candidat socialiste à la présidentielle. Et maintenant qu'il est élu, comment va-t-il le prouver ? David Cameron, le premier ministre britannique, a proposé de dérouler le tapis rouge afin d'accueillir les plus fortunés de notre pays, histoire de leur faciliter la vie, de leur trouver des logements dignes de leur statut, des écoles de qualité pour leurs enfants et des banques sympas pour leur fortune, prouvant ainsi que les paradis fiscaux ont la vie dure. Bah oui, puisque en fait, Hervé Falcioni avait établi une liste en fait de 4000 Français dont les avoirs en Suisse se montent à 6 milliards d'euros. Et la communication de leur nom à l'administration n'a guère été productive, puisque même Eric Woerth s'était félicité à l'époque d'avoir obtenu 20 régularisations sur 4000, oubliant le passage donc les 3980 exilés fiscaux restants. Le Comité citoyen pour une Europe solidaire a établi un constat de 25 pages en fait, qui détermine qu'en gros, dans tous les paradis fiscaux, Bahamas, Vatican, Liechtenstein, les Caïmans, Royaume-Uni, etc., etc., il y aurait plus de 11 500 milliards. Même moi, en fait, j'ai un doute quand je lis 11 500 oui, milliards de dollars. C'est bien ça. Totalement hallucinant. Et justement, à part ça, qu'est-ce que, voilà, comment on va faire un petit peu le nouveau président, un petit peu pour essayer de faire des petites coupes budgétaires aussi, puisque certes, il a décidé de baisser son salaire de 30%, ainsi que celui de ses ministres, mais quid des députés et des sénateurs ? Parce qu'en fait, en faisant un rapide calcul, on pourrait se rendre compte qu'en diminuant par deux le nombre des ministres, des sénateurs, des députés, l'économie réalisée serait en fait sur 5 ans de 180 millions d'euros. Oui, parce qu'en fait, en cumulant, en fait, on a même plus, en fait, je crois, que les États-Unis et la Russie, voire même presque. Alors là, par contre, ça serait exagéré de dire que la Russie et les États-Unis réunis au niveau de tous les représentants du peuple. Mais c'est quand même par rapport à la taille du pays et le nombre de populations, du moins, qui en France, c'est quand même. Un peu, voilà. Donc, si le salaire de ceux-ci était aussi baissé d'un tiers, donc on économiserait en fait 60 millions supplémentaires, et encore plus en supprimant les avantages consentis aux uns et aux autres. Et quid du parachute ? Ah oui, alors ça, c'est je ne savais pas, mais ça m'a fait mourir de rire, de pleurs, je ne sais pas. Et quid du parachute en or des députés mis en place par Jean-Louis Debré, qui permet aux non-réélus de toucher leur indemnité parlementaire pendant 60 mois après leur éviction. Ah ouais, c'est mieux que le loto, à tous les coups on gagne. Hein. Elle correspond à 725 640 euros en fait par élu au chômage. 725 600, ça représente voilà, cette somme-là. Ajoutons-y les indemnités parlementaires attribuées aux élus en place qui peuvent dépenser comme ils le veulent sans la moindre justification. Ce qui scandalise à juste titre les études suédois qui scandalisent les élus aussi ses doigts, puisque en fait ses indemnités se montent jusqu'à donc 5885 pour les députés et 6209 pour les sénateurs, soit pour 5 ans plus de 200 millions pour les députés et près de 130 millions pour les sénateurs. Bon, on parlera aussi par rapport aux économies en fait des petites mises en bouche qui sont données à certaines entreprises via en fait les 4 milliards de dépassements qu'il y a eu en fait avec l'EPR finlandais, puisque en fait alors qu'initialement il devait en coûter que 3, mais en fait de manière contractuelle tous les dépassements en fait étaient à la charge de la France, donc voilà 4 milliards en plus, blablabla. Et bien sûr, on parle pas encore, même si ça va revenir prochainement sur le tapis, que ça va faire mal, du démantèlement des vieilles centrales nucléaires qui sont provisionnées seulement à 10% de sa valeur, alors que les projets d'enfouissement des déchets radioactifs sont passés maintenant à 35 milliards. Tiens, juste une aparté, c'est vrai que le moment en fait de la construction et de la mise en place des centrales nucléaires, il était compté justement un pourcentage qui était censé servir au démantèlement, et en fait on s'est rendu compte que non seulement c'était bien en deçà en fait de ce qu'il y a, mais que parfois en fait les sommes n'étaient plus forcément lignes budgétaires, n'étaient plus forcément présentes, on va dire. Voilà, Jean-Christophe.
Ouais, alors moi je parcourais innocemment le site web du magazine Politis. Oui, on a d'autres sources d'informations. Et j'ai trouvé un élément de réponse à la grande question: qu'est-ce qu'un président normal ? Politis renvoyait il y a quelques temps, je crois que c'était le 14 mai, vers un rapport publié par le site de l'École nationale d'administration, la fameuse ENA, dont le jury jugeait sévèrement, très très sévèrement même, les candidats des dernières sessions de concours. Alors je suis donc allé lire ce rapport très officiel. Oui, je l'ai vraiment lu intégralement. Et on peut le trouver encore sur le site www.lagazettedescommunes, tout attaché. Et on y lit par exemple, je cite, page 6, un défaut également relevé et qui concerne davantage, mais pas exclusivement, les trop peu nombreuses épreuves donnant à traiter de sujets théoriques, vient de l'adoption systématique par les candidats d'un plan artificiel, presque toujours binaire, plus descriptif que vecteur de démonstration ou même de réflexion, tout ceci aboutissant à une certaine uniformité du propos dans sa présentation, mais aussi sur le fond. L'uniformité de la présentation affectant la sincérité et la spontanéité de l'analyse et de la démonstration. Un peu plus loin, page 7 de ce rapport, on peut lire. Les épreuves orales techniques ont révélé une grande disparité de performance des candidats avec de réelles faiblesses, voire de véritables impasses, ce qui est condamnable déjà dans un examen, mais qui n'est pas admissible dans des épreuves de concours et surtout à l'ENA. En ont résulté d'assez nombreuses notes proches de zéro et parfois même pour des candidats qui avaient obtenu une note plus que correcte à l'épreuve d'entretien, cela a été constaté tout spécialement pour les finances publiques et les questions internationales. Enfin, page 9, on peut lire « Au titre de la perception que le jury a eue des candidats pris dans leur généralité, et là encore avec de belles exceptions, on doit aussi relever une certaine uniformité de comportement, voire de pensée. Uniformité dans la présentation formelle des idées, mais aussi, ce qui est plus préoccupant, tendance à raisonner par la référence, à choisir le confort apparent de formules convenues, reprises, jusque dans le vocabulaire des modes administratifs et médiatiques. » Et j'arrête là les citations. Et ben voilà, c'est dit. Pensée dominante qui tourne en boucle. Reproduction des élites par les élites de plus en plus déconnectées de la réalité. Uniformité des remèdes pour entretenir l'immobilisme, etc. Bah, tout y est. Dans la bouche de François Hollande, ce n'est pas président normal qu'il fallait entendre et comprendre, mais président normalien.
Oui. C'est paradoxe. Oui, ça me fait penser, d'ailleurs, en parlant de paradoxe, en compulsant un petit peu les articles concernant le printemps arabe, je suis tombé aussi, bon, ça correspondait aussi à une période justement de manifestation des étudiants, mais tous les ans au Québec, il y a en fait des manifestations qui, au mois de mars, avril, qui est en fait une manifestation contre les violences policières, qui est systématiquement encadrée par la police et qui se finit systématiquement en baston. Donc voilà, et donc il y a en fait un journaliste qui faisait cette analogie, bon, un peu grossière, mais qui disait, en gros, c'est comme si, en fait, on envoyait dans les années 60 aux États-Unis, en fait, le Ku Klux Klan encadrait, en fait, des mouvements, en fait, pour les revendications des droits des Noirs américains, quoi. C'est un peu ça, quoi. Donc voilà.
C'est totalement ça.
Alors, moi, je vais faire deux trucs assez courts. Alors, je vais revenir quand même, et puis un petit écho, justement, sur toujours le printemps érable, puisque, bon, j'ai beaucoup apprécié, j'aime beaucoup, parce que, encore une fois, d'un certain moment en France, à partir du 18 mai et de cette loi Matraque, il y a une sorte de, on va dire, plus ou moins, puisque bon, on ne faudrait pas non plus que ça déborde jusqu'en France, donc on est avec, les journalistes sont plutôt avec le mouvement, mais pas trop, parce qu'il faut quand même un peu relativiser, puisqu'il ne faudrait pas que les étudiants français s'en inspirent un peu trop. Mais bon, il y a un journal qui reste cordialement sur une vraie droite ligne, si je puis dire, et qu'on retrouve bien là.
Tu vas quand même pas citer le Figaro, Samuel, ne fais pas ça, s'il te plaît.
Je trouve que c'est, voilà, au moins c'est courageux d'être. Voilà. Et donc il s'agit du Figaro, date du 30 mai. Et donc, avec un article intitulé «
On avait dit qu'on arrêtait le Figaro, c'était une blague au début, c'est intéressant.
Les Canadiens scandalisés par les largesses québécoises. Donc en effet, depuis le début de la révolution érable, les médias anglophones répercutent l'incrédulité et l'indignation du reste du pays, non sans excès et parfois mauvaise foi. Cette révolte étudiante, dénonce Gary Mason, éditorialiste du quotidien de Toronto, Globe and Mail, est un pur caprice d'enfants gâtés qui ne se rendent pas compte que les frais d'inscription universitaire au Québec sont déjà ridiculeusement bas par rapport au reste du pays. Sa collègue Margaret Wente fustige les Québécois, ces Grecs du Canada, en référence au pays qui rejette les mesures d'austérité imposées par l'Europe. Excédé par les débordements, Wente résume ainsi la mentalité des étudiants en grève. L'État nous doit tout et si nous ne l'obtenons pas, nous allons provoquer une émeute. Ouais, voilà, donc en gros, ils défendent aussi un certain point de vue qui n'est pas forcément le point de vue de tout le monde. Je continue très rapidement. Ah non, encore Agoravax. Bah si. Avec un article, bon, je vais lire vraiment en diagonale puisqu'il s'agit.
Il te paye, c'est ça?
Ouais. Je retouche à chaque fois que je clique, mais je touche 0,001 centime d'euro. Je vais devenir super riche. Donc, non, je déconne. Donc, un article intitulé BHL a-t-il marché sur la lune, toujours en lien avec. J'en avais parlé la dernière fois lors de l'émission de son film, Le Serment de Tobruk. Et là, vraisemblablement, il y a un journaliste qui a jeté un petit peu les images du film et il s'est rendu compte, en fait, de certaines choses. Et donc, ce qu'on appelle en fait le terme, j'aime pas trop, mais en fait c'est un debunker, et donc il a debunké en fait les images, et donc il s'est rendu compte que sur une image en fait on voit BHL la mèche au vent avec sa chemise ouverte et entouré de soldats qui sont censés être des soldats syriens. On se rend compte en fait que que les coupes de cheveux des soldats qui l'accompagnent, rappelons que c'est quand même un mouvement insurrectionnel, que les mecs ils sont censés ramper dans la boue combat, et tout, voilà quoi, et donc que les cheveux sont impeccables pour les gens qui entoure, que les pantalons sont parfaitement propres et encore plissés, on voit même les pliures de repassage presque, les sous-vêtements aussi, les t-shirts sont blancs, immaculés, et presque, il parle même presque de sketch de lessive à la Coluche, et que les groupes en fait qui sont tout autour de lui ne semblent pas former un groupe très ordonné. En gros, si c'était vraiment, normalement les militaires en fait ils ont des formations, surtout pour protéger, puisque là en l'occurrence, la photo laisse penser que les militaires sont là pour protéger en fait le dignitaire BHL qui est là en représentation et qui veut vraiment être sur le front, mais il faut le protéger quand même, même s'il est courageux, voilà, on peut pas le laisser y aller tout seul, donc il y a des militaires qui l'entourent et qui le protègent. Et donc là ils disent que normalement les vrais militaires, s'ils doivent protéger une sorte de VIP, ils n'utilisent pas ce genre de formation parce qu'ils protègent que dalle en fait. Et surtout en fait ce qui les a fait rire, c'est que normalement, en plus généralement, parce que là on les voit, normalement on marche pas avec le doigt sur la gâchette, puisque là on voit les militaires qui ont les doigts sur la gâchette, parce qu'en marchant on sait jamais, le coup peut partir très rapidement, donc c'est pas crédible non plus. Et puis surtout, en fait, en regardant les images de prépiés, ils se rendent compte que les AK-47, en fait, ils sont équipés en fait de ce qu'on appelle les bouchons BTB, en fait, qui sont en fait des bouchons qui sont utilisés lors des exercices de tir à blanc. Donc ça veut dire que les mecs qui sont censés, voilà, ils ont en fait des bouchons qui permettent de ne pas tirer en fait.
Bon, c'est une mise en scène quoi.
Bon, voilà, on aurait l'impression quand même. Donc bref, la conclusion. Donc BHL, donc l'art de la philosophie ne vaut que s'il est un art de la guerre. Bon bref, une très courte aussi là par contre, c'est pour conclure. Donc là c'est un récent, c'est rue 89 en date du 3 juillet. Et donc, vous vous souvenez, on avait pas parlé dans l'émission, mais ça a beaucoup été évoqué dans la presse, mais il y avait une plainte qui avait été déposée contre Rue 89 pour la vidéo de Sarko en off, souvenez-vous. C'était 4 ans exactement, donc nous sommes en 2012, donc ça devait être en 2008. On voit une vidéo avec Sarkozy sur le plateau de France 3 qui commence à engueuler parce que les mecs l'ont pas accueilli comme il fallait, et surtout qui fait des grosses insinuations sur un mec qui a été mis au placard. Donc en gros, si tu commences à me faire chier, attention, tu vas y retourner. Et surtout, en fait, qui demande limite, en fait, de diriger un peu les questions en fait du journaliste. Bon bref, il y a des plaintes qui avaient été portées à l'encontre de Rue 89 et certains membres en fait des techniciens de France 3 pour avoir fait fuiter en fait cette vidéo. Et bon bah en fait on apprend à ce jour, donc après que les présidentielles soient passées et que Nicolas Sarkozy ne s'est pas retrouvé, n'a pas été réélu, que finalement il a été débouté en fait de toutes ses demandes, et donc Rue 89 et les techniciens de France 3 ont eu gain de cause. Ouf, on respire, hein. On aurait cru que c'était plus une démocratie. Jean-Christophe.
Et bien sur ce, je trouve qu'on pourrait s'écouter ce qu'on n'a pas fait tout à l'heure, c'était un petit bruit de casserole.
Oui.
Histoire de faire la transition avec notre prochaine rubrique tant attendue, la rubrique tragicomique de notre émission qui s'appelle, et pendant ce temps-là, Fukushima. Donc un petit bruit de casserole, je crois qu'on avait prévu ça. Hein.
Ouais.
Il me fait toujours un peu rire ce générique, même s'il est vraiment affreux. Ouais, pour une fois, on va un peu plus coller à ce générique de notre fameuse rubrique tant attendue et pendant ce temps-là à Fukushima, où il aurait pu être question ce mois-ci, comme d'habitude, de Fukushima, du Japon, avec par exemple la relance de plusieurs réacteurs nucléaires sur le territoire nippon pour répondre aux besoins maladifs des Japonais en matière de climatisation. Progressivement, le temps efface les blessures et les mentalités se replongent dans le formol jusqu'au prochain drame, c'est bien connu. Mais j'ai choisi plutôt de vous parler d'armement nucléaire. Et donc voilà en quoi on va se retrouver en cohérence avec notre générique de rubrique. Voilà un sujet amusant, l'armement nucléaire, n'est-ce pas ? Alors, si j'avais été dupe de l'hypocrisie de Michel Rocard, laquelle est sans doute aussi teintée de sénilité, reconnaissons-le, je vous aurais parlé de son effet d'annonce d'un abandon de la force de frappe nucléaire prochain, évidemment soumis à la réflexion de l'actuel gouvernement, pour récupérer quelques milliards indispensables au budget de l'État pour financer, pourquoi pas au hasard, l'éducation, la santé, la justice et j'en passe, des secteurs dits aujourd'hui prioritaires. Mais j'ai souhaité plutôt évoquer rapidement le dernier livre de Paul Quilès, ancien ministre de la Défense de François Mitterrand, donc il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Paul Quilès explique dans présentation de son ouvrage, dans les différentes interventions médiatiques qu'il a pu produire, et notamment aussi sur son blog, il explique avoir changé de grille de lecture, et il l'exprime donc dans un livre intitulé « Nucléaire, un mensonge français ». Ça ressemble à du Pierre Péan, mais c'est du Paul Quilès. Je vous invite à aller au moins lire l'argumentaire de vente sur le blog de Paul Quilès. Alors bon, vous êtes des grands, hein, vous êtes peut-être des veaux, mais vous êtes grands, vous tapez son nom dans Google, on vous a déjà dit tout à l'heure que c'était le monopole du moteur de recherche, et vous faites pas chier. Paul Quilès, donc ça s'écrit Quiles. Et vous allez voir son blog pour y lire par exemple ses extraits pour les plus feignasses d'entre vous qui auraient la flemme d'y aller. Alors voici un extrait par exemple de son argumentaire de vente, c'est assez radical, écoutez bien. Certains penseront peut-être que c'est une curieuse idée pour un homme politique que de faire un livre sur un sujet qui semble hors d'actualité, l'armement nucléaire, la dissuasion. Est-ce bien sûr qu'il ne soit pas d'actualité ce sujet ? La récente provocation de Michel Rocard l'a remis brièvement sous les feux de l'actualité médiatique, mais il ne faudrait pas que ce soit un feu de paille, écrit Paul Quilès. Personnellement, je pense que l'importance d'un sujet ne dépend pas obligatoirement de son exposition médiatique. On pourrait mettre ça comme une grosse phrase écrite et la peindre sur beaucoup de murs de grands médias français. Quand je vois l'état du monde, de ses désordres, des guerres, des menaces, des conflits et d'embrasements, je me dis que c'est mon devoir de parler, mais je sais bien que vouloir dénoncer, comme je le fais, la sorte d'omerta qui entoure la question du rôle de l'arme nucléaire en France présente deux risques. Premier risque, c'est celui d'apparaître comme un dangereux irresponsable, un activiste pacifiste. Donc ça c'est un risque, hein. Pensez donc, mettre en cause le consensus français sur l'importance de la dissuasion nucléaire, cette assurance vie garantie ultime de notre sécurité, tout ça ce sont des mots du langage habituel des hommes politiques pour justifier l'armement nucléaire. Et de nos intérêts vitaux, ça aussi ça fait partie des éléments de langage, lui... Il dit « Je m'efforce justement dans ce livre de montrer que l'utilisation de ces termes entretient un climat démobilisateur parce qu'il rend le débat sur le sujet quasiment impossible en dehors des cercles d'experts militaires ou civils. » Deuxième risque qu'il semble courir à partir de l'instant où il écrit ce livre, c'est celui d'être considéré comme un renégat, puisque j'ai été ministre de la Défense il y a 26 ans, à l'époque où la course aux armements, notamment nucléaires, continuait entre l'Est et l'Ouest. Et il va un peu plus loin en expliquant que ce mensonge, donc d'où le titre de son livre, un mensonge d'État, ce mensonge se compose de 10 contre-vérités. Je vais les énumérer un petit peu vite. Première contre-vérité, l'armement nucléaire est notre assurance-vie. Voilà ce qu'on nous dit habituellement. Et c'est destiné à rassurer, évidemment. Sauf qu'une assurance-vie, comme rappelle Paul Quilès, n'est utile qu'aux survivants. Or là, il s'agit plutôt d'une assurance-mort. Mais pourquoi et au nom de quel principe interdire aux autres pays d'en disposer alors ? Deuxième argument, deuxième contre-vérité, la dissuasion interdit toute attaque nucléaire. Donc si c'est le cas, selon Paul Quilès, pourquoi prévoir un coûteux bouclier antimissile qui signe l'échec de la dissuasion alors ? Troisième contre-vérité, notre armement correspond au principe de stricte suffisance, notion pas très stricte, qui a évolué avec le temps, preuve de son caractère fallacieux. Quatrième contre-vérité, c'est indispensable pour lutter contre la prolifération du nucléaire. Au contraire, l'addiction des grandes puissances au nucléaire pousse à la prolifération dans les pays qui pensent que c'est la meilleure défense et à qui le nucléaire permettra de se faire entendre, genre Inde, Pakistan, Iran, etc. Cinquième contre-vérité, nous respectons le traité de non-prolifération, le fameux TNP. Eh bien non, Il nous demande pour ça de nous référer à l'article 6 du TNP qui dit ceci. Chacune des parties au traité s'engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace. Il y a encore d'autres contre-vérités comme ça que vous lirez sur le blog de Paul Quiles et je vous renvoie vers son livre intitulé Nucléaire, un mensonge français, livre de Paul Quiles, publié aux éditions Charles Léopold Meyer. Je n'étais pas payé pour faire cette pub. Le livre fait 96 pages, il est pas long et il coûte 10 euros.
Oui, moi je vais continuer comme à chaque fois, toujours avec des extraits du blog fukushimaoverblog.fr qui est un peu notre référence dans le domaine, puisqu'il est un des rares médias, même s'il n'est pas un média, on va dire, reconnu, qui nous donne un certain nombre d'informations et qui continue à nous alimenter, alors que, on va dire, pour le reste des médias, on a l'impression que tout est réglé, tout va bien du côté de Fukushima et du Japon. Et donc là, je vais vous lire deux articles qui pourraient presque être liés, en fait, avec la thématique de journée. On va dire, c'est un peu l'effet du hasard, et limite, tant mieux, et même tant mieux que ça bouge, puisqu'il s'agit du premier, donc, pour le premier article, d'un article du 22 juin, donc, intitulé Manifestation antinucléaire à Tokyo, la révolution des hortensias est en route. Donc 22 juin 2012, encore une journée historique de la lutte antinucléaire au Japon. Ce vendredi soir, entre 40 et 50 000 personnes se sont rassemblées devant la résidence officielle du Premier ministre Noda à Tokyo. Les Japonais ne lâchent rien. Ils refusent la décision du gouvernement de redémarrer les centrales nucléaires dans leur pays. Tu en parlais tout à l'heure, Jean-Christophe. Donc suite au mépris affiché des autorités face à la pétition rassemblant plus de 7 millions de signatures, je crois qu'en France, quand ça dépasse les 100 000 ou 200 000 déjà...
C'est déjà beaucoup.
Voilà. La mobilisation s'amplifie. Certains parlent déjà de révolution des hortensias, rappelant donc cette fleur japonaise qui est symbole de la mousson. Et ils se promettaient de faire une autre manifestation la semaine suivante. Et la semaine suivante, donc ça correspond à l'article en fait qui est paru le vendredi 29 juin 2012 et donc qui est intitulé cette fois Révolution des hortensias. Une semaine après la manifestation ayant rassemblé 40 000 personnes à Tokyo, c'est aujourd'hui probablement plus du double et peut-être le triple de manifestants qui se sont donné rendez-vous devant la résidence officielle du Premier ministre Noda. La demande est claire, ne pas redémarrer les réacteurs de la centrale d'Ohio. Le gouvernement compte en effet passer en force contre l'avis du peuple pour imposer à nouveau au Japon une politique énergétique nucléaire malgré la catastrophe de Fukushima en cours. Et je dis bien, catastrophe de Fukushima en cours. Mais le peuple dit non, il y a tellement de monde ce soir dans les rues que le gouvernement a décidé de barricader l'accès aux bâtiments et d'interrompre les manifestations. Les organisateurs promettent 300 000 personnes la semaine prochaine. En gros, les Japonais ne lâchent rien. Ils ont décidé de se réunir tous les vendredis et le nombre s'accroît. On va voir un petit peu ce vendredi combien ils vont être. Jean-Christophe.
Moi j'ai terminé.
Ah bah écoute, moi aussi, c'est
je
peut-être
propose
le moment
qu'on s'écoute
d'écouter une petite musique.
Ouais, une petite musique qui parle de nucléaire justement, d'apocalypse.
Where your clothes were.
Eh bien, comme d'habitude, on est à la bourre, mais cette fois un peu moins à la bourre que d'habitude.
Ah, je vois, j'y croyais pas.
Bon, il faut dire qu'on n'a pas eu notre chronique de Jean-Christophe Buchaud qu'on espère retrouver un de ces jours pour ses street reportages. Alors, en guise de mot de la fin, comme c'est la tradition dans cette émission, j'ai longuement hésité cette semaine. L'explication de texte de Nadine Morano pour récuser le flot de critiques sur son hypothétique racisme qui peut encore croire à ce bobard fomenté par l'extrême gauche aurait constitué une belle épitaphe pour l'UMP. Tu peux nous rappeler cette citation mémorable?
D'accord. Alors quoi, me faire passer pour quelqu'un qui, par exemple, qui serait raciste alors que j'ai des amis qui sont justement arabes et dont ma meilleure amie qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe? Je trouve ça choquant, personnellement.
Alors ça aurait pu être le mot de la fin. Et c'est vrai que ça aurait pu être une belle épitaphe pour l'UMP qui est en train de se disloquer, et c'est tout le bien qu'on lui souhaite. Mais finalement, je me suis reporté sur une citation peut-être encore plus édifiante de Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement Hérault 1 et 2, suite au désaveu au nom de la logique industrielle, je cite, de l'ex-ministre de l'écologie Nicole Bricq, qui avait cru bon remettre en cause l'autorisation des forages pétroliers en mer face à la Guyane française au bénéfice de la multinationale Shell. Et Najat Vallaud-Belkacem de dire ceci: le commerce extérieur n'est pas moins important que l'écologie. Alors, cher Najat, tu as beau être tout à fait mon type, mais c'est pas avec ce genre d'énormité que tu arriveras à me convaincre de marcher avec toi. Voilà, c'est la fin de notre 8e émission. Ça commence à bien faire. Elle a été préparée par...
moi.
Samuel Lecoq et moi-même. Nous avons écouté en titre, en plage musicale, en premier, le groupe Caspian, excellente, avec un extrait de leur dernier album Tercia qui s'appelle l'extrait Malakoda. On a eu ensuite l'inévitable Lou Reed avec l'excellent Satellite of Love, où on trouvait Bowie au cœur. C'est sur l'album non moins excellent et incontournable Transformers. Et enfin, je sais que ça a dû faire plaisir à beaucoup d'entre vous, l'excellent, peut-être le morceau que j'emmènerais sur une île déserte si je devais aller sur une île déserte où évidemment il n'y a pas d'électricité, où je pourrais pas écouter la musique, et bien ce serait Everyday Like Sunday sur l'album Viva Hate de Morrissey. Prochaine émission en août?
Non, vacances.
On fait relâche.
On va faire comme les veaux, on va faire comme tout le monde.
Bah ouais, on est des veaux nous aussi. Alors je sais pas si toi tu pars en vacances, moi c'est non cette année encore. C'est la crise, hein, c'est, il paraît.
Je crois
que ça va être la crise aussi. Alors on va se démerder quand même pour profiter un petit peu de ce mois de...
du soleil normand.
Hein. Du soleil normand, il paraît qu'il va faire très très beau encore, au moins pendant les deux prochaines semaines, avec je crois des 15 degrés, n'est-ce pas Joël Collado?
Ouais.
Alors donc la prochaine émission, eh bien ce sera le mardi 4 septembre 2012. On sera là de retour pour la deuxième saison de...
Ça commence à bien faire.
Peut-être qu'on changera de générique ou de titre. Non, on le garde.
Il est
pas mal. Hein. Ah ouais. Et cette émission sera consacrée à un thème alors qu'on essaiera de réduire au maximum parce qu'il y a vraiment très très long à dire là-dessus. C'est peut-être le fléau du 21e siècle. Il s'agit de l'évasion fiscale. Mais si, faudra quand même nous écouter, c'est vachement drôle l'évasion fiscale quand on l'explique.
On va se marrer, on va parler de chiffres.
On va parler de plans de bataille des banques pour essayer de nous entuber encore plus. On se marre déjà tellement c'est drôle. Alors, on se retrouve dans 2 mois maintenant.
Bah oui.
Ce sera juste après la rentrée des classes d'ailleurs. Ah. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, bon courage.
Écoutez-nous, ça peut vous avoir des bonnes notes si vous faites des devoirs avec inspiré de nos...
de nos longues chroniques. On essaiera d'être plus court la prochaine fois. Allez, on s'améliore et surtout ne lâchez rien comme dit l'autre. On se retrouve le 4 septembre.
Bonnes non-vacances.